Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. De plus en plus de femmes choisissent d'avoir un enfant à 40 ans et plus. En France, elles étaient 8 000 seulement en 1980, 30 000 en 2009, quelques 43 000 en 2016. Une tendance que l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, constate en Europe, Espagne et Italie en tête, mais aussi en Australie, au Japon ou encore aux États-Unis. Plusieurs facteurs expliquent ces grossesses qu'on appelle tardives, études plus longues, soucis de faire carrière, contraception maîtrisée, instabilité des couples, famille recomposée, difficulté à rencontrer le bon partenaire ou encore progrès de la science. Car désormais, face à l'impitoyable horloge biologique, on dispose des techniques de la PMA, la procréation médicalement assistée, et l'on peut même faire congeler ses ovocytes. Qu'il s'agisse d'un choix assumé ou d'un heureux hasard de la vie, comment bien vivre une grossesse tardive? Quels sont les risques pour le bébé, pour la mère? Faut-il une surveillance médicale particulière? Y a-t-il un âge idéal pour faire des enfants et un âge limite? Comment la fertilité varie-t-elle avec le temps? Est-on plus sereine, plus épanouie quand on devient mère à 40 ans? On en débat avec nos invités, professeur Laurent Salomon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités, gynécologue obstétricien au service obstétrique, médecine et chirurgie fœtale à la maternité de l'hôpital Necker, enfants malades à Paris. Agathe Giraud-Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez publié avec Annelise Pernotte un guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque » aux éditions Erol. Tout à l'heure, nous serons en ligne de Douala avec le docteur Monique Onomojong, gynécologue obstétricienne dans la capitale camerounaise. Et en fin d'émission, comme chaque lundi, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Si vous voulez témoigner ou poser des questions à nos invités, n'hésitez pas, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Agathe Giraud-Roux, est-ce qu'il est encore mal vu, notamment en France, de devenir mère sur le tard, ou est-ce que les mentalités quand même évoluent ?
Les mentalités évoluent bien heureusement. Maintenant, il y a toujours des personnes qui jugent un petit peu les choix des uns des autres. Et les femmes sont parfois un peu malmenées. On fait des enfants trop tôt, trop tard. C'est jamais vraiment le bon moment. Et quand on décide de faire un enfant à 40 ans, souvent ça questionne. Je pense que voilà, on a écrit ce livre pour justement aller au-delà des discours peut-être parfois un peu anxiogènes, puisque la grossesse et la maternité à 40 ans, ça c'est souvent le sujet des sujets un peu anxiogènes, ça pose des problèmes, etc. Et ce livre, ça a été une occasion pour nous de se dire, mais en fait, quels sont vraiment les problèmes? Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes? Et comment est-ce qu'on le vit finalement, cette grossesse? Surtout que ma co-auteure et moi, on est un petit peu concernés, puisqu'on a eu nos enfants assez tard.
Professeur Laurent Salomon, est-ce qu'on a raison de parler des grossesses tardives comme d'un phénomène de société, ou est-ce qu'il faut relativiser ?
Effectivement, c'est un petit peu un phénomène de société, parce qu'on sent qu'à mesure que notre société évolue, le nombre de ces grossesses après 40 ans augmente, mais je crois que c'est avant tout l'expression du choix des femmes.
Agathe, les maternités tardives, ce n'est pas nouveau. Elles étaient d'ailleurs très fréquente jusqu'en 1946, lors du fameux baby boom de l'après-guerre.
Oui, c'est vrai qu'on a été assez surprise quand on a commencé notre enquête de se rendre compte que c'est pas du tout un phénomène nouveau, que le baby boom, ça a été le retour aussi du petit dernier, en fait, qui arrivait dans les familles. Et c'était dans un schéma, justement, de la famille classique où, à 40 ans ou plus, on avait le petit dernier. Aujourd'hui, la configuration de la parentalité tardive a un petit peu changé, puisqu'il s'agit de familles composée, donc c'est le premier enfant d'un nouveau couple, c'est aussi parfois le petit dernier, mais c'est aussi des couples qui sont ensemble depuis un certain temps, et puis qui ont travaillé, qui ont voyagé, qui ont fait plein de trucs, qui ont profité de la vie, et puis à 35, 36, 37, 38, on se dit tiens, finalement si on faisait un enfant, c'est plus du tout les mêmes visages en fait de famille.
Professeur Salomon, à partir de quel âge doit-on parler de grossesse tardive ?
Alors, par usage, on a tendance à parler de grossesse tardive au-delà de 35 ans, mais il n'y a pas vraiment de date limite à partir duquel une grossesse devient tardive. On observe maintenant de plus en plus fréquemment des femmes qui ont même plus de 45 ans et qui font des grossesses.
Est-ce que vous recevez souvent des femmes qui pensent que tant qu'elles ont leurs règles, elles peuvent tomber enceintes ?
C'est la réalité. Effectivement, tant qu'il y a un cycle ovulatoire, il y a une possibilité physiologique de grossesse. Et souvent, les femmes nous questionnent sur la possibilité réelle d'une grossesse et en particulier sur les risques qu'elles encourent à avoir une grossesse à 40 ans ou plus.
Et le fait aujourd'hui de vivre plus longtemps, de vivre mieux, n'a aucune incidence sur l'horloge biologique des femmes ?
Sur l'horloge biologique en tant que telle, non.
Mais en revanche, on peut bien s'y prendre pour avoir davantage de chances de tomber enceinte, Agathe Giraud-Roux.
Oui, oui,
si on fait attention à plein de choses.
Oui, c'est vrai que ça aussi, ça nous a étonnés. On se dit, on vit de plus en plus tard, donc pourquoi on pourrait pas biologiquement avoir des enfants de plus en plus tard? Et en fait, c'est vrai, comme dit le docteur Salomon, ça n'a pas d'incidence. Cependant, on peut faire attention à notre hygiène de vie. Maintenant, on sait que effectivement, l'alcool, le tabac, un certain nombre de règles d'hygiène peuvent permettre à la femme d'être féconde, avoir des ovules de meilleure qualité plus tard. Et c'est vrai que dans notre livre, on a essayé de donner des petites recettes sur l'alimentation, sur plein de choses, des petits compléments alimentaires qui permettent d'être fertile le plus longtemps possible.
Professeur Salomon, on vous a posé la question 1000 fois, j'imagine, mais quel est l'âge idéal pour faire un enfant ? À quel âge les femmes sont-elles les plus fertiles ?
Alors le pic de la fertilité, il est plutôt entre la période de 20 et 30 ans, mais effectivement la plupart des femmes restent fertiles beaucoup plus tard. C'est sans doute aussi d'un point de vue purement statistique, cet âge de 20 à 30 ans, la période où les complications sont les moins fréquentes. On sait que les grossesses chez les femmes très jeunes sont des grossesses qui sont plus à risque, de même que les grossesses chez les femmes nettement plus âgées.
Et à partir de 35 ans, les chances de tomber enceinte diminuent de combien ? Est-ce qu'on a des chiffres ?
On a des chiffres, les probabilités de grossesse diminuent progressivement à partir de l'âge de 30-35 ans, mais chez certaines femmes, ça peut rester encore une probabilité relativement élevée, même au-delà de 40 ans.
Et à partir de 40 ans, quels sont les chiffres ?
C'est très variable d'une femme à l'autre, ça dépend évidemment si c'est une femme qui a déjà eu une grossesse ou qui n'en a pas eu, mais on sait que la fécondité spontanée diminue franchement à partir de 40 ans.
Et est-ce qu'il y a des femmes qui tombent encore enceintes naturellement, sans recours à la PMA, au-delà de 50 ans ?
Au-delà de 50 ans, c'est relativement exceptionnel, mais il y a des observations qui existent.
On va prendre au téléphone Maguette, qui nous appelle de Thiès, au Sénégal. Bonjour Maguette.
Bonjour.
Maguette, on vous écoute.
Bonjour docteur.
Bonjour Maguette.
Voilà, ma question c'est, est-ce que c'est possible de tomber enceinte à l'âge de 40 plus 46 ans quoi ? Je viens juste de me marier. Ça fait 7 mois et vraiment je désire avoir un enfant, moi et mon mari. Et j'ai parcouru les gynécos, une sage-femme. Un gynéco m'a prescrit de faire une radio pour voir si les trompes sont bouchées. Je l'ai fait, les trompes sont bouchées et il m'a dit qu'on peut déboucher ça. Mais cette radio est très difficile et très douloureuse. Vraiment, j'ai souffert. Et j'ai peur de faire cette radio encore. Je ne sais pas à quoi ça peut aboutir.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à Maguette, docteur Salomon ?
Merci Maguette, c'est un petit peu difficile de répondre sans avoir l'ensemble du dossier médical. D'abord, félicitations pour votre mariage. Si les trompes sont effectivement bouchées des deux côtés, ça veut dire déjà que physiologiquement, ça ne sera pas possible d'obtenir une grossesse sans aide médicale. Donc ensuite, il y a deux possibilités. Soit d'essayer de déboucher les trompes comme votre médecin vous le propose, soit de recourir à des aides médicales à la procréation, ce qu'on appelle les techniques de procréation médicalement assistée. Et en fonction de votre dossier et des autres éléments de votre bilan, je pense que votre médecin sera capable de vous proposer la meilleure stratégie.
Maguette, est-ce que vous avez une autre... Est-ce que vous avez encore une question pour professeur Salomon ?
Non, merci. C'est clair.
Eh ben, bonne chance, Maguette, pour la suite. Docteur Salomon, je vais vous lire un message sur Facebook. Seikou nous a écrit de Conakry, en Guinée. La sœur de mon amie s'est mariée il y a 4 ans. Elle avait 39 ans. Elle essaie d'avoir des enfants, mais sans succès. Elle m'a dit que dans sa jeunesse, elle avait pris des méthodes de contraception et elle a peur que cela l'empêche d'avoir un enfant aujourd'hui. Est-ce que cela peut avoir des conséquences? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Seikou?
A priori, non. Une méthode contraceptive, lorsqu'elle est correctement utilisée, n'a pas de raison d'avoir une implication sur la suite de la fertilité. Il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent dans les médias ou même dans la société sur le fait que prendre telle ou telle contraception met en jeu la fertilité ultérieure. Il y a aussi, je sais, beaucoup de femmes qui sont effrayées par le fait qu'on leur a dit dans leur jeunesse qu'elles avaient des kystes sur les ovaires, qu'elles auraient des difficultés pour faire des grossesses, etc. Très souvent, je le vois dans mon quotidien, ces informations sont erronées. Donc j'encourage les femmes à aller consulter un spécialiste pour les rassurer sur leur possibilité de grossesse. En tout cas, pour le cas de Seikou et de la sœur de son amie, il n'y a pas de raison, a priori, qu'une contraception prise dans l'enfance l'empêche aujourd'hui, enfin dans l'adolescence, l'empêche aujourd'hui d'avoir une grossesse normale.
Agathe Girorou, est-ce que vous avez constaté, parce que vous avez recueilli des dizaines de témoignages de femmes, que ce sont les femmes les plus éduquées, les mieux installées dans la vie, qui ont le moins conscience du temps qui passe et qui oublient le couperet de l'horloge biologique?
Je suis pas sûre que ce soit une question de femmes de classe sociale, on va dire. C'est une espèce d'inconscience qui est un peu paradoxale entre les discours anxiogènes qu'on peut entendre justement sur la fertilité qui baisse à partir de 35 ans et parfois des femmes complètement qui se réveillent et qui tout d'un coup ont envie d'un enfant à 38, 39 ans et qui arrivent dans un cabinet de gynécologue en disant bah voilà, moi je veux un enfant. Et là, elles se rendent compte que ça va peut-être être plus compliqué. Donc non, je dirais que c'est pas forcément une question de classe sociale ou de niveau d'éducation, ça n'a rien à voir, c'est les envies des femmes, des vies en fait. Moi je dis souvent qu'une grossesse tardive ça s'est pas décidé. En fait, c'est souvent un parcours de vie. On se dit pas à 20 ans, moi je vais avoir un enfant à 40 ans. On se dit à 20 ans, j'ai envie d'avoir un enfant à 30 ans, comme tout le monde. Et puis la vie fait que les rencontres, mauvaises rencontres, bonnes rencontres, voyages, travail, on choisit pas forcément et ça arrive quand ça arrive. Voilà.
Professeur Salomon, quand on essaie de tomber enceinte et qu'on n'y parvient pas, à partir de quand doit-on demander un bilan d'infertilité?
Alors, globalement, ça va dépendre un petit peu justement de son âge. Lorsque l'on est jeune, on peut se laisser un petit peu plus de temps et on peut essayer pendant au moins une année, spontanément, d'avoir une grossesse avant d'aller consulter. Alors que, effectivement, lorsque l'horloge biologique avance, lorsqu'on a déjà plus de 35 ou 38 ans, j'encourage les femmes à consulter un petit peu plus rapidement. Il faut savoir, et ça rassurera peut-être un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices, que quand tout va bien, qu'il n'y a aucune pathologie médicale, le délai médian pour un couple pour obtenir une grossesse est de 7 mois. C'est-à-dire que 50% des couples pour qui tout va bien vont mettre déjà plus que 7 mois avant d'arriver à obtenir une grossesse.
Et quand l'envie d'enfant tourne à l'obsession, est-ce que ça diminue les chances de tomber enceinte?
C'est une très bonne question. Il y a assez peu de données finalement là-dessus. On se rend bien compte qu'il y a un impact très important de la psychologie de la femme et du couple sur la chance d'obtention d'une grossesse. On voit des couples qui pendant des années essayent d'avoir un enfant et puis qui finalement parfois décident d'adopter. Et cette adoption est comme libératoire et dans les suites de l'adoption, ils arrivent à obtenir une grossesse spontanément ensemble. On ne sait pas très bien quel est l'impact de cette psychologie sur la fertilité du couple, mais il y en a certainement un.
Vous, Agathe, dans votre livre, vous soulignez l'impact du stress.
Oui, c'est vrai que c'est un facteur dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, on a un témoignage comme ça d'une femme qui a adopté. Et 12 mois après 7 ans de PMA, hein, et 12 mois après, là, elle est tombée enceinte spontanément. Il y a le blocage psychologique est hyper important. Et d'ailleurs, j'ai des chiffres comme quoi un couple sur 5, après un parcours de PMA qui n'a pas réussi, tombe enceinte, enfin attend un enfant. Donc je crois que le moment du lâcher prise, c'est certainement hyper important pour tomber enceinte.
Et vous donnez des conseils très pratiques pour lâcher prise?
On donne des conseils très pratiques. Bah déjà, on dit qu'il faut, enfin, on conseille d'en parler. Parce que l'infertilité a un certain tabou dans n'importe quelle société. On est une espèce qui est censée se reproduire et inconsciemment, lorsqu'on est en défaillance par rapport à ça, on porte une espèce de honte et qui est pas forcément consciente. Mais on conseille d'en parler parce qu'on se rend compte qu'autour de nous, on est de plus en plus nombreux à parfois... problème d'infertilité, comme dit le docteur Salomon, parfois on met 7 mois pour avoir un enfant et on se dit, oh là là, ça marche pas. Mais non, c'est normal. Donc, en parler, on se détend. Et puis, peut-être aussi, ce qu'on conseille, parce que je pense qu'il faut pas oublier l'aspect aussi du plaisir. Quand on fait un enfant, c'est aussi par amour. Les rapports programmés perdent parfois un peu le charme, certes, mais aussi empêchent parfois d'avoir un... tomber enceinte tout simplement parce que on est avec un calendrier et ça devient mécanique et parfois ça aussi empêche de tomber enceinte.
On va prendre un autre témoignage d'auditrice, Mandelena qui nous appelle de Lubumbashi en RDC. Bonjour Mandelena.
Bonjour Chantal, bonjour docteur.
Bonjour.
Mandelena, on vous écoute.
Bah oui, moi j'aimerais faire un témoignage. Ma première fille, je l'ai accouchée, j'avais 25 ans. Là, maintenant, j'ai 41 ans. J'ai fait ma fille au mois de novembre passé, c'est-à-dire à 40 ans. Ben, en général, si j'essaie de comparer les deux grossesses, pour moi, je trouve qu'à 40 ans, psychologiquement, mentalement, c'était plus facile pour moi. Il y avait moins de trauma, hein, et par rapport au malaise, à tout ce que j'ai ressenti à 25 ans, je l'ai moins ressenti à 40 ans, et j'étais vraiment prête à accueillir cet enfant, et lors de la couche, le travail, ça s'est vraiment passé très rapidement. J'ai commencé les contractions à 1h, 3h, je suis allée à l'hôpital, et à 6h30, j'avais déjà le bébé entre les mains. Ben, ce que je peux dire que pour moi, ben, c'est une joie. C'est vrai que je ne dors plus, mais vraiment, je suis contente d'avoir cet enfant à 40 ans.
Vous avez l'impression que vous savourez, que vous appréciez mieux la maternité aujourd'hui que lorsque vous avez eu votre premier enfant à 25 ans?
Effectivement, je l'apprécie mieux. Pour moi, je vois que c'est un cadeau de la vie. C'est pas dire que j'aime pas ma fille. La première de 16 ans, je l'adore. Mais présentement, c'est la joie, c'est l'amour. Pour moi, je me sens plus épanouie. Et je me dis qu'il faut faire des enfants à 40 ans.
Vous pensez que ça rajeunit carrément une maman d'avoir un enfant à 40 ans?
Oui, vous vous sentez bon. Physiquement, c'est vrai que bon, mon corps, il a changé. Hein, les seins sont devenus encore plus géants, le ventre qui ne rentre pas facilement. Mais oui, vous vous sentez bien. Ça vous rajeunit et spirituellement, mentalement, je suis plus reconnaissante à la vie.
Est-ce que l'un ou l'autre, vous voulez réagir au témoignage de Mandelena? Agathe?
Oui, ben nous c'est un des points forts quand même de la grossesse entre guillemets tardive, c'est qu'on a une expérience de vie qui s'est déjà faite à 40 ans et on sait un petit peu plus ce qu'on veut, ce qu'on aime, on se connaît mieux. Donc la manière dont on vit cette grossesse et la manière dont on aborde la vie, les problèmes, même la fatigue, on sait très bien que ça va passer, c'est pas grave. On a des valeurs qu'on a envie de transmettre. Enfin, on est plus sûr de nous et cette maturité est à mon sens quand même un plus. Quand on arrive à avoir un enfant à 40 ans, c'est chouette.
Professeur Salomon ?
Absolument, oui, merci Mandelena pour ce témoignage. Ça nous montre bien, un peu comme on le disait en début d'émission, que sans doute le bon moment pour faire un enfant, c'est le moment où on se sent prêt. Et effectivement, l'expérience de la vie, parfois, aide à avoir une expérience beaucoup plus favorable. Et souvent, ces grossesses se passent bien, comme nous le rappelle Mandelena.
Mandelena, merci beaucoup de nous avoir appelé. Bonne journée à Lubumbashi.
J'ai fêlé ma tête sans que je le décèle, mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. cherchais. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert. Quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde, toute tête menaçant. J'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée à queue s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
Présentement, Aloïse Sauvage sur RFI, la jeune chanteuse qui monte, sera demain soir à la Gaîté Lyrique à Paris et le 21 juin sur la scène de Solidays. Priorité santé, être mère à 40 ans et plus. Nous continuons de parler des grossesses tardives avec le professeur Laurent Salomon, obstétricien à l'hôpital Necker à Paris, et avec la journaliste Agathe Giraud-Roux. On va partir maintenant pour le Cameroun. Docteur Monique Onomojong, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes gynécologue obstétricienne en libéral à Douala. Docteur Monique Onomojong, comment est perçue une grossesse après 40 ans au Cameroun?
Très bien perçue, plutôt bien perçue. Vous savez qu'en Afrique, le statut de la femme est d'autant mieux vécu qu'elle est mère. Donc le statut de mère est très valorisé. Donc, tant qu'une femme peut faire des enfants, c'est tout à fait bienvenu.
Alors, quelles sont les raisons qui expliquent ces grossesses un peu tardives, entre guillemets?
Alors, chez nous, c'est un petit peu la même chose que ce qui a été dit avant. Hein. Alors, d'abord, il y a des femmes qui ont des fertilités normales et qui ont une grossesse, soit une grossesse surprise à 40 ans parce qu'elles n'ont pas forcément une contraception. Ou bien il y a l'enfant au bout de la retraite. Vous savez qu'en Afrique,
On a perdu. Il semble qu'on ait des problèmes de liaison avec Douala au Cameroun. Il semble qu'on ait perdu le docteur Onomojong. J'attends qu'on me fasse signe de la régie. Oui, on va la rappeler dans quelques instants. On a un message sur Facebook, professeur Salomon. François nous écrit de Kananga en RDC. Ma femme a 42 ans, nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé. Maintenant, nous désirons avoir un enfant. Elle n'est pas encore enceinte, elle ne souffre d'aucune maladie. Y a-t-il des inconvénients à être enceinte après 40 ans? Quelles sont les précautions à prendre?
Alors non, il n'y a pas d'inconvénient à être enceinte après 40 ans, il y a simplement la nécessité d'avoir un suivi approprié auprès d'un professionnel de santé. Les précautions à prendre, c'est surtout de prendre toutes les précautions avant le début de cette grossesse pour être sûr qu'on est dans des bonnes conditions, c'est-à-dire de faire un certain nombre de vérifications sur les statuts sérologiques, vérifier qu'il n'y a pas des vaccinations à mettre à jour, par exemple, avant de démarrer une grossesse, vérifier qu'on a bien toutes les supplémentations nutritionnelles et vitaminiques qui sont nécessaires pour bien démarrer cette grossesse. Donc je pense que surtout lorsque l'on a 40 ans, dès lors qu'il y a ce projet de grossesse, il faut aller consulter un professionnel de santé pour faire un point rapide rapide sur son état de santé et vérifier que toutes les conditions sont réunies pour démarrer une grossesse dans de bonnes conditions.
Alors, on a bien compris que vous étiez très serein, pas du tout stressé par rapport à ces grossesses tardives de vos patientes. Mais est-ce qu'il y a quand même des risques, d'abord pour l'enfant ?
Alors bien sûr, il y a des risques pour l'enfant comme pour la mère. Il y a des risques pour l'enfant comme dans toutes les grossesses. Et comme je l'expliquais au début de cette émission, les risques sont globalement un peu augmentés par rapport à une grossesse que l'on aurait obtenue plus précocement. Alors si on parle spécifiquement des risques pour l'enfant, un des risques qui est relativement rare mais qui est le mieux connu, c'est le risque d'anomalie chromosomique. Vous vous souvenez peut-être que pendant très longtemps, on disait après 38 ans, il faut faire une amniosynthèse. Effectivement, lorsque l'on a une grossesse tardivement, il y a plus de risques que le fœtus soit atteint d'une anomalie chromosomique, mais ce sont maintenant des anomalies chromosomiques que l'on sait très bien dépister.
C'est-à-dire la trisomie 21.
La trisomie 21 étant la plus emblématique, on a aujourd'hui maintenant tout un arsenal de dépistage qui permet, quasi avec certitude, de rassurer une femme de plus de 40 ans qui, de base, a un risque relativement élevé d'avoir un enfant trisomique. C'est un risque qui s'évalue aux alentours de 1 risque sur 50, ce qui est quand même pas négligeable du tout.
Et vous parliez de l'amniosynthèse, souvent ça fait peur aux femmes.
Alors absolument, cette amniosynthèse souvent elle fait peur aux femmes. Il y a deux avancées importantes là au cours des récentes années. D'abord, on a mis au point une nouvelle technique de dépistage qui est basée sur une simple prise de sang et qui permet d'être quasi aussi bien rassuré par rapport au risque de trisomie 21 qu'avec une amniosynthèse. Donc cette nouvelle prise de sang, elle est de plus en plus souvent proposée aux femmes, en particulier aux femmes qui ont un risque élevé du fait de leur âge.
On appelle ça c'est les tests ADN.
C'est les tests ADN, absolument. Et puis la deuxième grosse avancée au cours de ces dernières années, c'est qu'on a considérablement réévalué le risque réel de l'amniosynthèse. L'amniosynthèse qui apporte quand même des informations complémentaires par rapport au simple test ADN. Et on sait maintenant que les amniosynthèses telles qu'elles sont réalisées aujourd'hui comportent très peu de risques.
Alors vous avez dit que les tests ADN étaient proposés aux femmes. Est-ce qu'ils ne devraient pas être généralisés au même titre que les échographies, par exemple ?
Alors, ces tests ADN sont maintenant généralisés dès lors que l'on évalue le risque au-dessus d'un certain seuil. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est totalement en application sur le territoire français, par exemple. Dès lors que le risque estimé d'une femme enceinte d'avoir un enfant trisomique est supérieur à 1 sur 1000, ce qui va arriver relativement facilement lorsque on est âgé, eh bien, dès lors que ce risque dépasse 1 sur 1000, le test ADN sera proposé et pris en charge par l'assurance maladie.
On va retourner à Douala, où nous attend le docteur Monique Onomojang. Docteur, je vous demandais tout à l'heure, quelles sont les raisons qui expliquent ces grossesses tardives, qu'on constate aussi au Cameroun? Et vous nous parliez de ce qu'on appelle en Afrique l'enfant de la retraite.
Oui, c'est ça. C'est l'enfant qui va accompagner ses parents lors de la retraite. Entre guillemets, bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est dit de façon un peu humoristique, l'enfant de la retraite. Voilà. Donc voilà, ça c'est une des raisons, mais aussi il y a toutes les mêmes raisons que partout dans le monde, hein, c'est-à-dire que ben, l'âge de la première grossesse recule, y compris en Afrique, parce que les populations sont beaucoup plus urbanisées maintenant, donc du fait des logements, les femmes travaillent, etc. Donc ce qui fait que ben, les femmes ont leur première grossesse plus tard. Il y a aussi des gens qui se mettent en couple plus tard, les femmes qui ont des difficultés à trouver le partenaire souhaité ou idéalisé. Il y a les remariages après divorce, etc., ou séparation. Donc ça, ce sont les causes générales. Et puis, il y a aussi le cas des femmes infertiles qui ont souvent attendu très, très longtemps que l'enfant arrive. Et puis souvent, à la quarantaine, en désespoir de cause, elles se tournent vers nous en disant « Docteur, je voudrais un enfant ». Même si, effectivement, on a dit tout à l'heure, ce n'est pas le meilleur moment pour tenter forcément une grossesse. Mais bon, on a énormément de femmes en demande de grossesse à cet âge-là.
Est-ce qu'au Cameroun, le recours à la PMA, la procréation médicalement assistée, est fréquent? Est-ce que c'est facile d'y avoir accès?
Oui, c'est fréquent. Le recours à la PMA est de plus en plus fréquent. Au début, il était un petit peu méfiant, mais on a quand même un recul depuis 1998, parce que notre premier bébé éprouvette au Cameroun, bébé éprouvette entre guillemets, bébé obtenu par procréation médicalement assistée, est arrivé en 1998. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années, ce qui fait que les gens ont pu s'approprier cette méthode. Et on a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de centres aussi qui existent au Cameroun. Ce qui fait que les femmes de plus en plus se tournent vers cette technique, et d'autant plus qu'effectivement elles arrivent à la quarantaine.
Et est-ce qu'il y a un âge limite pour avoir recours à la PMA au Cameroun ?
Alors, on n'a pas, malheureusement au Cameroun, pour l'instant, nous n'avons pas de loi concernant la PMA. Donc, il n'y a pas d'âge limite en tant que tel. Bon, les centres gèrent leurs patientes avec leurs critères personnels. Dans le centre où je travaille, on n'a pas. Moi, personnellement, je me fixe des deadlines. C'est-à-dire que ma deadline, c'est 50 ans. En sachant qu'à partir de 43 ans, les femmes vont souvent avoir recours plutôt à un don d'ovocytes parce que les résultats en PMA ne sont pas bons du tout. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas bien appréhendé. Comme partout dans le monde, les femmes pensent que la PMA, c'est la méthode miracle. Et donc, elles pensent qu'elles attendent. Et puis, à 40 ans, elles se disent, après, j'y vais en PMA, ils vont faire des miracles et je vais avoir un bébé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On l'a dit ici, il y a une baisse de la fertilité qui commence dès 35 ans. Donc, il faut que les femmes sachent qu'elles doivent être prises en charge rapidement à partir de 35 ans et ne pas trop tarder parce que la PMA, elle fait avec l'existant. Alors, quand on a plus de 43 ans, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt des PMA avec des dons d'ovocytes qui sont possibles au Cameroun. Après, se pose le problème de la deadline, parce qu'on a des femmes de 50 ans et plus qui viennent consulter. Moi, personnellement, je me fixe comme deadline l'âge de 50 ans, mais d'autres peuvent aller plus loin, c'est vrai.
Professeur Salomon, vous voulez réagir à ce que vient de nous dire le docteur Monique Onomojong ?
Non, pas du tout. Effectivement, ça semble être des règles de prise en charge relativement raisonnables. Et on sait effectivement que au-delà d'un certain âge, les chances d'obtenir une grossesse, même avec la PMA, diminuent considérablement. Ce qui fait que la plupart du temps, effectivement, les centres ne proposent pas de prise en charge au-delà d'un certain âge.
Merci beaucoup, docteur Monique Onomojong, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne en libéral. Bonne journée à Douala.
RFI à Douala, 97.8 FM.
On va prendre un autre témoignage au standard. Taylor, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Vous nous appelez de Lubumbashi également, en RDC. Taylor, on vous écoute.
Oui, en fait, ma mère avait 43 ans. Elle avait déjà 5 enfants. Et tout le monde croyait parce qu'elle était ménopausée. Mais curieusement, elle est tombée enceinte. Et dans le quartier, presque tout le monde s'est moqué d'elle, parfois même dans la famille. Du coup, elle s'est sentie isolée et ne voulait parler à personne, même pas à notre père. Donc c'est juste après l'accouchement qu'elle fera entendre à notre papa que c'était vraiment dur pour elle et honteux de pouvoir porter un enfant, surtout à cet âge-là. Voilà.
Voilà, donc merci Taylor pour ce témoignage. Agathe Girourou, dans votre livre, vous donnez des petits conseils aussi aux mamans qui ne sont pas très à l'aise avec l'idée de d'avoir un enfant alors qu'elles ont 40 ans ou plus. Et vous dites notamment que le père, lui, souvent ne rencontre pas le même genre de problème.
C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de l'âge du père depuis tout à l'heure, alors que il a aussi une incidence d'ailleurs sur les grossesses.
Parce que le sperme de l'homme vieillit et donc il est de moins bonne qualité aussi, hein, vous confirmez docteur
sans doute.
Salomon ? Agathe.
Oui, bon, en tout cas, nous, on est tombé sur des études qui disent que oui, ça a quand même une petite incidence, mais cela dit, c'est assez minime. En ce qui concerne le sujet de Taylor, je suis bien désolée que cette situation puisse se produire, mais elle existe partout, malheureusement. Comme je disais tout à l'heure, les femmes sont soumises à des jugements parfois assez difficiles. Nous, ce qu'on conseille, c'est effectivement de s'appuyer sur sa maturité pour être plus sûr de soi, plus sûr de ses choix, plus être en phase avec ses propres désirs. Après, là, une fois de plus, c'est une grossesse surprise. Moi, je pense que, mais bon, il faut que les femmes s'en convainquent que c'est plutôt un cadeau de la vie et que c'est une jeunesse en fait, hein, à pouvoir donner la vie. C'est la preuve que tout fonctionne et qu'on est jeune et qu'on est suffisamment en forme pour donner la vie à un bébé. Et ça, on doit en être fier.
Ce qui peut être désagréable, c'est quand on est prise pour la grand-mère de son enfant.
Oui, alors ça a été, on a eu pas mal de témoignages comme ça. On a eu des témoignages de papa qui nous disait, quand je vais chercher ma fille, on me dit, ah, vous êtes le papy. Et ils sont très fiers de dire, non, je suis le papa. Parce que quelque part, c'est aussi une forme de virilité, hein, d'être papa à 50, 60 ans. Pour les enfants, côté enfants, on a eu aussi des témoignages de jeunes femmes qui nous ont dit, on me disait toujours que mon papa, c'était mon grand-père et j'en avais honte et j'en ai souffert. Donc,
Vous dites, quand Mick Jagger va chercher sa fille de 6 ans à l'école, c'est pas cool. La honte.
C'est plutôt rock'n'roll. Mais en même temps, et tout est justement dans le regard qu'on a sur nous-mêmes et dans le fait d'assumer ses choix et finalement, ce papa qui dit non, je suis pas le grand-père, je suis le papa et qui en est très fier. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ben, on le regarde avec respect, tout simplement.
Professeur Salomon, tout à l'heure, on parlait avec la gynécologue obstétricienne de Douala de la PMA. La PMA, c'est pas la solution miracle, ça reste un parcours du combattant.
Absolument, la PMA, c'est pas du tout la solution miracle. Donc, il faut aller consulter rapidement dès lors qu'on a un désir de grossesse pour avoir l'aide qui peut être nécessaire. La PMA a d'assez faibles chances de réussite chez les femmes qui sont au-delà d'un certain âge, si bien qu'elle n'est pas pratiquée au-delà d'un certain âge dans beaucoup de centres. Les femmes peuvent avoir recours parfois à des centres à l'étranger, en particulier pour demander un don d'ovocytes, mais c'est effectivement un parcours du combattant. Donc il faut surtout pas considérer que la PMA va être l'aide pour plus tard, lorsqu'on a un désir d'enfant, il faut rapidement aller consulter.
Et en France, la PMA est prise en charge jusqu'à quel âge?
Jusqu'à 42 ans.
Et vous êtes d'accord avec cet âge?
C'est un âge qui est relativement raisonnable par rapport à nos capacités de prise en charge et également par rapport aux chances de succès de cette PMA, comme je le disais.
Agathe, vous publiez le témoignage dans votre livre de Laurence. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est une maman de 37 ans, donc qui est devenue maman après 9 ans de PMA. Et elle raconte à quel point c'est dur. Elle dit « Notre vie de couple a été détruite par des rapports sexuels déshumanisés à but essentiellement reproductif. » Ça peut être un piège aussi de la PMA.
En fait, ça nous a, alors je citerai personne, mais on a fait un déjeuner de presse avec quelqu'un qui est très connu en France dans la PMA, et on lui a dit, mais l'accompagnement psychologique de ces familles-là, il est comment? Et il m'a pas répondu à ma question en fait, et j'ai été assez choquée de voir entre les témoignages qu'on avait nous des parents qui sont en parcours de PMA, qui sont traumatisés parfois et dont les couples sont des vrais champs de bataille. Et ce regard complètement médical sur cette performance de réussir à créer un enfant finalement. Et alors que la part psychologique est hyper importante et qu'effectivement pour des couples ça peut être très difficile. L'enfant on l'a pas imaginez comme ça, on l'a pas imaginé qu'il fallait faire l'amour ce soir à telle heure. Enfin, le matin, faut prendre sa température parce qu'il y a des facteurs favorisants, on sait, où l'ovulation est à son maximum. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut avoir un rapport. Et alors ça, c'est la phase 1, c'est quand on essaye nous-mêmes. Mais après, ça va être le recueil des spermes de monsieur tout seul. Alors aujourd'hui, on peut être accompagné de sa femme, heureusement, mais jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, on était tout seul dans une salle à devoir faire le recueil. Et puis après, il y a la phase encore après où la femme n'a plus d'ovocytes de bonne qualité. Et là, il faut faire appel à une donneuse. Donc, l'enfant, il se fait... Faut que le couple soit très fort. Et nous, on a constaté dans tous nos témoignages que les PMA les plus réussis, c'était des PMA où le couple était très fort, très solide, où il y avait beaucoup de discussions, d'échanges. Et pour nous, c'est essentiel de pouvoir parler de tout ça, parce que c'est le couple est réellement passé à la machine.
Professeur Salomon, pour contrer l'horloge biologique, est-ce que la solution, c'est de congeler ces ovocytes, ce qu'on appelle l'autoconservation des ovocytes?
Alors l'autoconservation des ovocytes, c'est une technique médicale qui est avant tout proposée lorsque l'on pense que la femme va être soumise à certaines contraintes qui risquent de mettre à mal ses ovocytes, mais c'est certainement pas une solution à envisager pour l'avenir, et il faut bien sûr privilégier la physiologie avant tout.
Donc vous êtes d'accord avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, quand elle critique une autoconservation par confort?
Je pense que pour l'instant, une autoconservation par confort serait effectivement excessive.
Quelle est votre position là-dessus, Agathe Giraud?
Ça doit être le seul point sur lequel on n'est pas d'accord avec le docteur Salomon. C'est que moi, je pense qu'on doit être libre. Et aujourd'hui, la société va évoluer dans ce sens-là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, de toute façon. On doit pouvoir... Enfin, l'autoconservation... En plus, on n'est pas égaux, parce que l'autoconservation des spermatozoïdes est beaucoup plus libre... Aujourd'hui, alors d'après ce que je sais, alors peut-être vous allez me dire que c'est pas vrai, docteur Sermon, mais je crois qu'on peut plus facilement congeler ses spermatozoïdes que ses ovocytes.
Donc, c'est vrai en France, docteur Salomon ?
Je ne crois pas que ça soit forcément plus facile, non.
Mais en revanche, faire congeler ses ovocytes aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe, c'est bien plus facile qu'en France.
Bien sûr, oui. En Espagne, il commence à y avoir de plus en plus de femmes françaises, en tout cas, qui partent congeler leurs ovocytes.
Parce qu'en France, c'est possible, mais c'est strictement encadré, professeur Salomon.
C'est absolument strictement encadré pour des femmes qui vont avoir recours à des traitements qui peuvent avoir un effet toxique sur leurs ovocytes, par exemple.
Alors j'ai encore quelques questions. Est-ce que les mamans tardives ont davantage d'enfants nés prématurés, professeur Salomon ?
Oui, alors parmi les risques pour l'enfant, pour le fœtus dont on parlait tout à l'heure, il y a également un risque légèrement augmenté de prématurité.
Est-ce que les grossesses tardives, quand les femmes ont un profil particulier, je pense aux femmes qui sont en surpoids par exemple, ou qui souffrent d'insuffisance rénale, donc là ça peut poser problème ?
Là également, il y a plus de risques. C'est globalement les complications qu'on appelle vasculaires. C'est la complication comme la pré-éclampsie. C'est une complication qui s'accompagne d'hypertension et de protéines dans les urines au cours de la grossesse. Cette complication, qui est également plus fréquente chez les femmes âgées et chez les femmes obèses, est une des complications spécifiques de la femme âgée. On sait aujourd'hui mieux la dépister également. Tout à l'heure, on parlait du dépistage de la trisomie 21. On a aujourd'hui des techniques qui permettent de mieux dépister le risque de prééclampsie et également de prévenir cette prééclampsie par l'administration d'aspirine chez les femmes qui semblent être le plus à risque.
Donc pour résumer, il faut donc pas de problème pour les grossesses tardives, mais il faut quand même davantage de vigilance, une surveillance médicale un peu renforcée.
Il faut absolument davantage de vigilance. Encore une fois, ces grossesses tardives sont des grossesses qui le plus souvent se passent bien, mais toutes les complications habituelles de la grossesse sont un petit peu plus fréquentes et nécessitent donc un peu plus de vigilance.
Agathe Giraud-Roux, j'ai lu qu'on vieillissait mieux et qu'on vivait plus longtemps. Je crois que c'est une étude de chercheurs de Boston lorsqu'on devient maman tardivement. Est-ce que vous avez eu des échos de cette étude ?
En fait, les échos de l'étude, on les vit. Parce que, comme disait la maman tout à l'heure, on dort moins. Alors, paradoxalement, on peut se dire on dort moins, donc on est plus fatigué, donc on vieillit. Mais non, pas du tout. En fait, on a une espèce de réflexe de survie pour son enfant. On est au taquet, quoi. On est plus jeune, on se bouge, on est obligé de se lever. Voilà, c'est la longévité, elle est là en fait, c'est se forcer en fait à être au niveau pour son enfant, répondre aux besoins.
Alors la conclusion de votre livre, c'est que d'ici 15-20 ans, la parentalité tardive va devenir la norme. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle, l'un et l'autre ?
Je pense pas particulièrement. Notre livre est pas écrit pour dire faites des enfants tard. Notre livre est écrit pour dire c'est possible, ça existe et ça peut très bien se passer. Maintenant, la norme, ça reste d'avoir des enfants quand même relativement jeunes pour avoir ces enfants le plus longtemps possible de toute façon.
Professeur Salomon ?
Effectivement, les grossesses tardives vont sans doute devenir de plus en plus fréquentes. Mais comme l'a très bien dit madame, je pense qu'il faut effectivement que les grossesses restent le plus souvent des grossesses aux alentours de 20 ou 30 ans, qui est sans doute l'âge le plus physiologique.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Professeur Laurent Salomon, je rappelle que vous êtes professeur des universités, gynécologue obstétricien au service obstétrique, médecine et chirurgie fœtale à la maternité de l'hôpital Necker, enfants malades à Paris. Merci également à vous, Agathe Giraud-Roux. Je renvoie nos auditeurs au livre « Gay et décapant » que vous avez coécrit avec Anne-Lise Pernotte. « Avoir un enfant à 40 ans ou presque », c'est publié aux éditions Erol. C'est l'heure de la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Vous allez nous parler aujourd'hui des sucres présents dans l'alimentation. Ma première question, quelles sont les sources de sucre que l'on va retrouver naturellement dans les produits issus des végétaux et des animaux ?
Alors, la nature produit une grande quantité de sucre qu'on appelle les glucides. Alors, il y a tout d'abord les sucres simples qu'on appelle les monosaccharides, comme par exemple le glucose et le fructose. On va les retrouver dans les fruits, bien sûr, les légumes, mais aussi le miel, qui sont des très bonnes sources de glucose et de fructose. Il y a ensuite le saccharose, qui est aussi présent naturellement dans les fruits et les légumes, mais aussi et surtout, comme on le sait, dans la canne à sucre et la betterave à sucre. C'est ce sucre-là, à partir de la canne à sucre ou de la betterave, qui va être le sucre blanc qu'on a l'habitude d'utiliser couramment sur la table. Il y a enfin un sucre qui est produit dans les glandes mammaires et que l'on retrouve dans le lait de nombreux mammifères, c'est le lactose.
Est-ce que les céréales, les racines, les légumineuses et les tubercules ne contiennent pas aussi des sucres?
Alors, c'est toutes ces familles, hein, ça va être le riz, ça va être le mil, le maïs, le sorgho, le blé, le fonio, le manioc, la pomme de terre, il y en a un très grand nombre, contiennent très peu de sucres simples, ce qu'on vient de décrire précédemment. Par contre, ils ont tous de l'amidon, ça va être un sucre qu'on appelle complexe, ça va être une chaîne polysaccharidique qui va être faite à partir d'éléments de glucose, et en fait, ces polysaccharides vont être digérés progressivement par une enzyme qu'on appelle l'amylase puis la maltase pour que le glucose soit réabsorbé dans notre intestin. Il est important aussi de noter qu'il existe un troisième type de sucre dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui sont des polysaccharides aussi, c'est-à-dire des sucres complexes, mais qui vont pas être digérés et pas être absorbés, et ça va être les fibres alimentaires qui sont très importantes pour notre santé.
Alors, en matière de consommation de sucre, quelles sont les recommandations et comment respecter ces recommandations?
Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui fixe tout le temps les recommandations pour les questions de nutrition, dit qu'il faut à peu près un apport global dans la journée de 50 à 60% de l'apport calorique qui viennent de ces glucides. Mais ce qui fait à peu près 250 à 300 grammes de glucides par jour. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que c'est sur la qualité des glucides qui est important. Il faut plutôt aller vers les glucides complexes, puisqu'aujourd'hui, il y a des recommandations strictes pour les sucres simple où il ne faut pas en consommer plus de 25 grammes par jour. Et l'autre chose importante aussi, c'est que l'OMS recommande d'augmenter la consommation de fibres à peu près 25-30 grammes par jour. Alors on atteint ces recommandations facilement en adoptant une alimentation qui va être équilibrée et diversifiée. Et si on veut abaisser les sucres simples, bah, il va falloir éviter de consommer des boissons sucrées comme les sodas et les jus de fruits, éviter de consommer des confiseries qui sont souvent très sucrées comme les bonbons, limiter la consommation de biscuits aussi qui sont souvent très salés, très sucrés et très gras, ce qu'on oublie souvent. Et bien sûr, éviter de rajouter en excès du sucre simple dans son café, dans son thé ou dans, ça peut être aussi dans ses yaourts.
Stéphane, pourquoi consomme-t-on trop de sucre et quels sont les risques pour la santé?
Alors, d'abord, l'excès de sucre, ça va amener un excès de calories, donc un problème qui peut être sur le surpoids et l'obésité. Deuxièmement, on sait qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en sucre simple, qui sont aussi riches en graisse. Donc, ça va être un deuxième problème. Ça va être le cas des biscuits, des barres chocolatées ou des glaces. On oublie souvent qu'il y a une association sucre et graisse. Et enfin, l'excès de consommation de ce sucre simple va entraîner aussi une élévation des triglycérides de certains lipides sanguins qui vont créer une aggravation du risque cardiovasculaire. Et cette surconsommation de sucre simple, elle est vraiment due aujourd'hui aux produits ultra transformés industriels, puisqu'on retrouve souvent du sucre, même dans des endroits où on ne penserait pas en trouver, comme dans du ketchup ou maintenant dans certains saucissons même, on retrouve du sucre. Et du coup, il faut que nos auditeurs sachent que vraiment, il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des quantités de sucre très 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 importantes. Si on prend quelques exemples, comme un muffin qui va être acheté dans les grandes chaîne de fast-food, on a quasiment 7 à 10 cuillères de sucre dans un petit muffin. Un grand verre de boisson type soda contient en moyenne 16 cuillères de sucre. Et un grand verre de jus type smoothie, 22 cuillères de sucre, alors qu'on disait qu'il faut à peu près 6 cuillères par jour. On voit tout le problème.
On est très loin du compte. C'était la chronique nutrition signée Stéphane Besançon. Merci Stéphane, à bientôt. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Sétou Samaké, Baptiste Madinier et Ophélie Lassène qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée avec Laurent Hérault au standard pour les appels. Si vous voulez poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Vous pouvez réécouter Priorité Santé en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émission. À demain et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.